Un autre rivage. Un aigle noir avec un rabat blanc.
Ils avaient dû lancer leur dernier feu avant de devenir de sages petits garçons, faisant la joie et l'émerveillement de leurs parents. De braves petits écoliers aux résultats encourageants. Certes, l'épisode de la rentrée et la remise au directeur de leur devoir de vacances, prescrit par le commissaire, fut un cap difficile à passer. D'autant qu'ils se firent en public, alors que tous leurs camarades, bien alignés, avaient du mal à ne pas rigoler, avertis qu'ils étaient des exploits de leurs condisciples. Les rédactions devaient être de belles factures, car elles n'amenèrent de la part du directeur aucun commentaire moralisateur, mais seulement quelques petits conseils d'écriture. Il faut dire que c'était la dernière année qu'il fréquentait cette école. La rentrée suivante se ferait à Rouen, dans un collège privé. Heureusement, la grande ville n'avait pas été marquée par les exploits des deux amis, et 7 mois s'étaient passés avant qu'il n'entre en quatrième. Les quelques rares qui avaient eu vent de l'affaire ne feraient pas le rapprochement avec les nouveaux. La période de rodage passée, l'année scolaire se passa sans trop de problèmes. Ayant choisi des options différentes, ils n'étaient pas toujours dans les mêmes cours, mais se retrouvaient souvent. Ils s'étaient attirés de nouveaux amis et les histoires de Lucas, qui était dans un autre établissement, ne leur manquaient pas vraiment. Benoît et Pascal se quittèrent fin juin. Ils ne se verraient pas en juillet, le premier partant en colonie de vacances et le second restant à la maison. En août, ce serait un peu pareil, Benoît partant en vacances avec ses parents. Quant au début septembre, ce serait le tour de Pascal et des siens. C'est donc vraiment à la rentrée en troisième, à la mi-septembre, qu'ils se retrouvèrent. Pascal s'en faisait toute une joie, mais au premier coup d'œil, il vit que son ami n'était pas dans son assiette. Il s'attendait à une explosion de joie, et il n'eut droit qu'à une politesse gênée. Le stress de la rentrée ? Mais les jours passent, et Benoît reste bizarre, fermé, pas à son aise, au contraire de lui-même. Rien n'indique ce qui a pu se produire. Il paraît en bonne santé, sa famille qu'il connaît bien n'a pas l'air d'avoir de problèmes particuliers. Il a de bons résultats scolaires. Décidément, rien qui puisse justifier un changement de comportement aussi radical. L'amitié s'est faite pour ces moments-là, et Pascal se montre plus proche encore qu'à l'accoutumée, manifestant de petites attentions, essayant quelques plaisanteries, mais rien n'y fait. Il ressent même de la part de Benoît un certain agacement vis-à-vis de cette attitude qu'il juge par trop protectrice et envahissante. Ils ont alors 13 ans, pas assez de références sur tout ce qui les entoure, sur ce vaste monde et sur eux-mêmes. De guerre lasse, un peu par dépit, par calcul aussi, il prend de la distance, pas trop, mais assez pour que son ami s'en rende compte. Il observe discrètement aussi. Benoît s'enferme dans une petite solitude. Cela étonne de sa part. Il n'a pas habitué son univers à ça. Maintenant, d'autres que Pascal s'en sont aperçus et s'inquiètent auprès de lui, connaissant leurs liens. « Je ne sais pas, je ne comprends pas », se contente-t-il de répondre à chaque fois un peu plus agacé. Voilà près d'un mois que Benoît est bizarre, quand Adrien vient voir de nouveau Pascal. « Quoi encore ? Tu veux me parler de Benoît ? Oui, ok, calme. J'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu.
Quoi ?
Comme si quelqu'un d'autre que lui avait pu s'apercevoir de quelque chose. Quand le frère André est dans la classe, ou le croise dehors, tu n'as rien remarqué ? Dis-moi, tu n'as pas vu qu'il était encore plus fermé ? Que parfois il rougissait ? Tu n'as pas remarqué que depuis quelque temps, frère André ne l'emboîte plus au tableau et ne lui pose plus de questions ? Maintenant que tu le dis, et qu'est-ce que tu en conclus ?
Rien. Je ne sais pas. Je trouve que ce n'est pas très normal, et c'est pourquoi j'ai voulu t'en parler. Tu le connais mieux. C'est peut-être la raison pour laquelle tu n'as rien remarqué. Mais aussi pourquoi tu dois mieux comprendre ce qui peut se passer.
Cet entretien a eu l'effet d'un déclic chez Pascal. C'est sûr qu'à force de trop regarder son ami essayer de le comprendre, il a oublié de voir autour d'eux. Et maintenant qu'Adrien a attiré son attention, se remémorant ces dernières semaines, il est obligé d'admettre que l'observation est exacte. Mais quel rapport peut-il bien y avoir ? En amitié, pas d'attente. Et à la récré suivante, Pascal tente l'approche. Il a de plus remarqué que Benoît était différent. Il a trouvé un peu de désespoir en lui. Malgré les rebuffades, il sent que c'est bien le moment. Et plus il s'approche de son ami, plus il en est convaincu. Il n'a même pas besoin de parler qu'il entend « Je ne peux pas te dire ici. Tout à l'heure, au bois du Roule. » Là, on sera vraiment seul. Le bois du Roule à Darnétal accueille bien souvent leurs rencontres et celles de quelques-uns qui souhaitent se sentir hors de ville. Comme ça, pour causer un peu, courir beaucoup et même taper un ballon. Des amoureux s'y égarent parfois. C'est un endroit hors du monde. Il est de leur monde. Et là, tout peut se dire. Il n'a même pas eu besoin d'ouvrir la conversation au bois du Roule, car dès qu'ils sont arrivés, Benoît s'est assis au pied d'un arbre et a invité de la main Pascal à en faire autant. Il fixait devant lui un bouleau bien élancé qui cherchait le soleil au-dessus des ramures. Il ne voulait pas se laisser distraire et tout de suite, il a commencé. La première fois, il m'a fait convoquer dans son bureau. Il est vrai que j'avais quelques exploits à confesser. Le ton a été très moralisateur. Te rends-tu compte de la chance que tu as ? Tu es dans un des meilleurs établissements de Rouen. Ceux qui sont passés ici, pour la plupart, ont trouvé une voie noble. Ils sont aujourd'hui dans les meilleurs emplois pour eux-mêmes et les services qu'ils rendent à notre cité, à notre pays. C'est un bel avenir auquel tu es promis. Et tu es en train de gâcher tes chances. Pas une semaine sans que tu te fasses remarquer par quelque facétie. Tu veux qu'on parle de ton exploit d'avant-hier ? Non, je ne sais pas. Quel exploit ? Il serait temps que tu aies le courage de tes actes. Tout ce que tu fais t'appartient et tu en es responsable, Benoît. Tu as beaucoup d'atouts pour toi, tu es intelligent. Souvent, tu comprends avant les autres, dans la plupart des matières, et tu occupes une bonne partie de ton temps à des âneries. Benoît se tait, comprend qu'il pourra difficilement donner le change. Il baisse la tête, commence peut-être un peu à mouiller les yeux. Il sait que le frère André a bien un peu raison, mais sa nature l'emmène souvent là où il ne devrait pas aller, vers quelque facétie, comme il dit. Il sait que Pascal est une bonne aide pour lui. Il est si posé, tellement son contraire. Il aimerait tant qu'il soit là en ce moment. Ne pleure pas. Je sais que tu as en toi les moyens de redresser la barre. Tu as de bons résultats et il ne manque pas grand-chose pour que tu réussisses complètement. » Benoît, après les semonces, reçoit les consolations. Et cela finit de l'effondrer. Il pleure à chaudes larmes. Nul ne saura si le frère André avait des intentions en appelant Benoît, ou s'il voulait seulement faire ce que sa mission d'enseignant, religieuse qui plus est, lui indiquait de faire. Il s'approcha de Benoît tout plein de compassion, dépassé par l'immense chagrin qui commençait à envahir son élève. Surpris, le petit chenapan qui gaspillait ses talents avait aussi des sentiments et des faiblesses. Il le prend dans ses bras et les deux s'abandonnent. Benoît a la consolation qu'il attend de son maître. Et le frère André a des pensées troubles qui toujours l'ont envahi et que jamais il n'a cherché à comprendre et à dominer. Il avait toujours été fort. Il avait une vocation, une mission, et rien ne pouvait l'en détourner. Il allait vers cet enfant plein de sentiments de compassion, mais il n'ignorait pas qu'il en transportait d'autres, et sa faute était bien là, de s'être senti trop fort et trop parfait. « Mon tout petit, je ne voulais pas te faire de la peine, je ne voulais pas te faire pleurer. » Et lui, qui a abandonné le droit de procréer, de faire des petits, d'avoir à les élever et les porter dans ses bras, saisit tout soudain qu'il pouvait être un père, qu'il ne le sera pas. Il est en confusion de sentiments. Qui est-il donc? Que fait-il? Benoît est entre ses bras qui pleurent et lui ne sait que faire. Mais son corps parle pour lui. Son sexe, trop ignoré, réclame là sa part et se gonfle, rebelle. Frère André ne sait que faire. Il embrasse Benoît plus fortement encore, pose un baiser sur son front, pleure à son tour et ne sait desserrer l'étreinte. Benoît prend peur et se dégage doucement, s'éloigne, franchit la porte, laissant derrière lui un pauvre homme, abattu, en tempête, en perdition. Il ignore qu'il sera bientôt sa victime. Il ignore que les hommes défaits sont les plus dangereux. Cette fois, il n'en dira pas plus. Se libérer n'est pas facile. C'est épuisant. Il lui faut autre chose. Il faut qu'il explose, lui, qui se contient depuis tant de jours. Benoît se lève soudainement, regarde son ami, éclate de rire, éclate en larmes et part en courant. Pascal a vécu cette confession en silence, approuvant de ses yeux, accompagnant par de petites tapes complices ou de petits rires connivants le chemin torturé emprunté par son ami pour se libérer. Fou de joie, Benoît est en vie, il court, il vole, cela fait si longtemps. Il est pris d'un fou rire, se lève à son tour et le rattrape. Il n'a pas eu à forcer son allure, car Benoît saute et fait les cabrioles autant qu'il court. Il vient de sortir d'une prison, il retrouve l'air libre, l'air de son bois du roule. Il s'arrête soudain et se met à chanter « C'est au bois du roule que l'on vient en foule, amis venez donc chanter à l'unisson. » C'est au bois du roule. Pascal l'accompagne dans ce chant qui colore souvent leur sortie en compagnie des copains du quartier. Une manière de chant de ralliement pour les colos et les centres aérés. Une manière d'être ensemble chez soi, Alors Pascal se jette sur son ami, le saisit, le plaque, et ils roulent ensemble sur l'herbe du printemps. Ils roulent et roulent, riant et pleurant, se relèvent et s'attrapent, se jettent par terre, roulent encore et encore, se relèvent et se balancent de gentilles torgnoles, se mettent en position de combat, jeunes coqs simulent la violence, s'attrapent et se jettent au sol, repartent en courant, au plus vite, au plus loin, tombent exténués, rient encore, encore plus fort, et se relèvent, sans souffle, posent leurs coudes sur la rambarde du panorama qui domine Darnétal. Ici, ils sont les rois, rien ne peut les atteindre. 15 années plus tard, Pascal se souviendra de ces empoignades-là, et puis de quelques autres, au moins aussi joyeuses, et puis de la dernière empoignade. Aujourd'hui, ils descendent vers leur petite ville, calmes, épuisés. Ils vont se séparer et retrouver leur famille. Pascal, s'il te plaît, ne me laisse pas seul à l'école. Ne me laisse jamais seul. Je te raconterai la suite de l'histoire. De cette histoire qui doit s'arrêter là. Elle doit s'arrêter là. Il hurle. Elle doit s'arrêter là. Pascal le serre contre lui. Ne dit rien. Mais tout en lui est un acquiescement qu'il n'ait besoin de dire. 2 ou 3 semaines plus tard, Benoît reprend son récit. Pascal est venu chez lui à cause de quelques devoirs un peu ardus. Ils sont dans sa chambre. Il s'est passé plusieurs semaines après cette première rencontre particulière avec le frère André. Je me souviens de beaucoup de gêne de sa part et de la mienne aussi. Je me sentais perdu, je ne comprenais pas. Il y avait en lui comme une tempête qui ne pouvait franchir les frontières de son corps dès que je me retrouvais plus ou moins seul avec lui. J'avais l'impression, je ne sais pas, comme un volcan, comme une mer qui se charge de vent et qui est encore calme. Tu deviens poète. On devient poète souvent, quand on ne sait comment dire les choses. Non ? J'aime ce que tu dis, c'est beau. C'est vrai. Tu sais qu'on ne sait rien. J'aime souvent penser le contraire. Mais on ne sait rien, rien du tout. Tout ce que je viens d'apprendre et que je vais te dire, tout cela, je l'ignorais hier. Et demain, je ne ferai que savoir ce que j'ignore aujourd'hui. C'est comme ça, c'est la vie. Tu as vieilli d'un coup. J'ai vieilli, un peu plus. Tant qu'on vieillit, on vit. Et puis, j'ai une putain d'envie de vivre. Ah oui, une putain d'envie de vivre. Je ne m'arrêterai pas à ces saloperies. Saloperie. Peut-être 2 semaines plus tard, je me suis trouvé avec lui dans le couloir des grands. Il n'y avait personne d'autre. Il s'est approché de moi, m'a posé la main sur l'épaule. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi depuis l'autre jour. Peut-être n'aurais-je pas dû te dire ce que je t'ai dit. Je sais que tu es quelqu'un de très vivant et il ne faudrait surtout pas que tu croies que c'est là un défaut. C'est souvent une qualité. Une exceptionnelle qualité. Tu peux regarder autour de toi comme trop de gens se contentent de subir leur sort et que leur seule défense est de se plaindre à voix basse. Toi, tu vis. Même si c'est un peu brouillon, tu vis et tu le fais savoir. Et moi, je me taisais. J'étais vraiment dans une espèce de moment que je ne comprenais pas. Après tout, j'étais là pour apprendre des choses, plein de choses, pour devenir un homme, je sais pas. On m'a toujours dit ça. J'étais pas là pour écouter des trucs bizarres, car j'ai trouvé vraiment bizarre ce qu'il me racontait. Normalement, il était là pour m'apprendre, et pas pour s'excuser, non. Il était là pour la géographie et l'histoire. Il a continué. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a en toi des qualités que tu dois cultiver. Tu es différent. Mais la différence, elle a beaucoup créé. Je crois que tu dois rester différent et rester dans le monde. Voilà, c'est ça. Tu dois rester différent et rester dans le monde. Voilà. Rester différent et rester dans le monde. Voilà, voilà, c'est tout. Et puis il est parti. Il est parti et puis revenu vers moi. Je ne sais pas si je puis t'aider. Je ne sais pas. Écoute, voilà. Il y a un camp cet été à Denville, dans la Manche. Pour ceux qui le souhaitent, ce serait peut-être bien que tu y viennes. Là-bas, c'est pas pareil. On a le temps, on peut parler, on peut voir les choses autrement. Il n'a pas insisté plus que ça. Je dois le reconnaître. Mais j'étais intrigué. Et quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire pendant les vacances au mois de juillet, je les ai laissés un peu venir. Ils se savaient très occupés ce mois-là, et totalement libres en août. Ils ne voulaient pas se débarrasser de moi, non, ils voulaient que je passe de bonnes vacances, c'est sûr. C'était aussi leur tranquillité, leur bonne conscience, mais je sais que c'était d'abord pour moi. En juillet, j'étais donc colon à Denville, dans la colonie organisée par le collège. Et moi, à la maison, j'ai passé du bon temps avec la famille et avec les copains. Je me rends compte maintenant que c'est à ton retour de colo que je t'ai trouvé bizarre. D'abord, tu n'es pas venu me voir tout de suite. Je ne savais pas exactement quand tu rentrais et attendais un peu que tu viennes. Finalement, je suis passé chez toi quelques jours après ton retour. Et je t'ai trouvé fatigué, triste. Et pas spécialement heureux de me voir, je n'ai pas insisté. Tu es parti en vacances en août avec tes parents et moi en septembre avec les miens. Pratiquement, on s'est retrouvés à la rentrée. J'avais laissé de côté ta fatigue de juillet, l'avais presque oubliée. Mais dès que je t'ai vu dans la cour, tout de suite, cela m'est revenu. Tu avais la même attitude, fermée, ailleurs. J'étais perdu. J'aurais tellement eu envie de me confier à toi, mais je ne pouvais pas. Je ne me comprenais pas. Il a fallu que tu me provoques pour qu'enfin je te parle, que je me libère. À Denville, tout a bien commencé. Les copains, la mer, les jeux, les randonnées, les excursions. Le petit blues des parents, vite effacé par tout ce mouvement. Le frère André, très occupé par l'organisation de la colo, avait eu peu de temps de s'occuper particulièrement de moi et je m'en trouvais fort bien. Il me faisait un petit signe de temps en temps. Il était apaisé, détendu. Rien à voir avec ce qu'il était après l'entretien dans son bureau. Après une dizaine de jours, l'organisation étant à peu près réglée, il avait plus de temps, il a commencé à se rapprocher un peu. Mais jamais cela seul, il venait dans le groupe où je me trouvais. Et nous passions tous un bon moment ensemble à discuter de tout, de rien, à plaisanter. C'est vers le milieu de la colo que ça a commencé. Un soir, j'étais assis sur mon lit dans le dortoir. J'avais un petit moment de solitude. Je pensais à mes parents, à toi aussi. Ces instants m'arrivaient parfois de façon passagère. Mais là, le frère André est passé et il m'a vu. Les autres dormaient, plus ou moins. Il devait être vers les 10 heures du soir, peut-être. Il s'est approché. « Alors tu ne dors pas ?» J'ai souri, un peu moqueur vis-à-vis de sa remarque d'évidence. Il a compris et sourit aussi. « Tu as l'air un peu triste, non ?»« Ah non, non, je pensais juste à mes parents. Des fois, ils me manquent. Surtout le soir. » Dans la journée, on a tellement d'occupations que je n'ai pas le temps d'y penser. Tu es content d'être ici, alors ? Ah oui, de toute façon, mes parents sont très occupés en ce moment, et je ne les aurais pas beaucoup vus. Je les aurai tout à moi dans 2 semaines. Vous partez en vacances ? Oui. En Italie, le comité d'entreprise de ma mère a une résidence de vacances là-bas, vers Pise. Tu passeras peut-être à Rome, au Vatican. Peut-être. Je ne sais pas. Nous avons ensuite discuté de tout, de rien. C'était bien agréable, en fait. Tous les copains autour de nous s'étaient endormis. Tu veux boire un chocolat ? Après la petite discussion, et malgré ma fatigue, j'étais bien éveillé. Bah oui, je veux bien. Je l'ai suivi à la cantine, déserte à cette heure-là, et il a préparé le chocolat. Quand il a été prêt, il m'a proposé de venir le boire dans sa chambre. Ainsi, nous pourrions discuter plus à notre aise. Il se proposait de me montrer justement les photos d'anciens qui avaient réussi. En prolongement de notre discussion, vu le ton du moment que nous venions de passer, je n'avais aucune raison de me méfier. Et de quoi aurais-je pu me méfier ? Je me demande même aujourd'hui s'il avait à ce moment-là des intentions. Des intentions ? S'interroge Pascal. Je vais te raconter, mais laisse-moi le temps, s'il te plaît. Ce que je peux déjà te dire, c'est que depuis que nous avons parlé au Bois du Roule, et depuis que tu es plus près de moi, il ne s'est rien passé. Peut-être moi suis-je aussi différent. Je le sens en tout cas. C'est que tu es beaucoup mieux depuis. Et ça se voit. Il y a même des copains qui m'en ont parlé. Vraiment heureux de ça. Il a d'abord sorti des photos d'anciens, comme il me l'avait dit. Et nous avons commencé à boire notre chocolat. Peu à peu, je me suis senti envahi d'un sentiment bizarre. Comme si les choses changeaient autour de moi. L'ambiance devenait plus feutrée. Lui parlait moins fort. Il ne semblait plus s'intéresser aux photos, aux anciens. Il dérapait. Il m'a regardé. J'étais figé, glacé. Je me souvenais de l'entrevue dans son bureau, au collège, et de la gêne qui était née ce jour-là. Il était couvert de sueur, très mal à l'aise. Il s'est approché de moi. Tu sais, il est venu vers moi, m'a caressé les cheveux. Benoît sent monter en lui des sanglots qu'il ne peut réprimer. Il s'effondre. Pascal s'approche de lui, attrape ses épaules, le secoue gentiment. Ce n'est rien, je suis là. Je suis là, et puis c'est pas grave. Tu me raconteras tout ça une autre fois. Je commence à comprendre. L'important est que tout soit fini et que tu aies pris de dessus. L'important pour moi aussi, c'est que j'ai pu t'y aider. Benoît lui sourit. Il a bien envie de continuer à se libérer, vraiment envie. Mais il est épuisé. Ce retour sur les événements l'a anéanti. Il découvre que le mental fatigue parfois plus que le physique. Il a maintenant surtout envie de dormir. Il sait qu'il va dormir d'un sommeil apaisé. Il ressent profondément le besoin de retourner dans l'espace de sommeil, l'espace protecteur et amnésique qu'il n'a pas connu depuis de trop longs mois. Il peut compter sur Pascal. Il sait qu'il reviendra. Dès demain, peut-être. Il sait que l'essentiel est dit, que son ami a compris. Il s'endort, enfant heureux, et il suce son pouce. Pascal le laisse à ce bonheur retrouvé et prend congé des parents de son ami. « Je m'en vais, bonne soirée !»« Bonne soirée, Pascal, tout va bien ?» Pascal n'a pas vraiment envie d'entamer la conversation. Mais il sait que les parents de Benoît sont inquiets à son sujet. Ses parents sont aimants et attentionnés. Il a compris qu'ils étaient aussi en inquiétude depuis quelque temps. Alors il s'attarde un peu, s'assied. Oui, tout va bien. Benoît dort. Déjà ? Oui. Il était très fatigué. Le père de Benoît, Laurent, est artisan menuisier Il fait tourner une petite entreprise familiale de construction, charpente, meubles et agencements. Son épouse, Lucie, fait la compta et elle travaille par ailleurs à mi-temps dans une société d'import-export. C'est un homme plutôt réservé, concentré sur son travail et ses engagements. Un homme heureux au cœur de sa famille. Benoît a une sœur, Gaëlle, un peu plus jeune que lui. Un homme heureux dans son travail aussi, par le plaisir profond que lui procure la belle ouvrage, une jouissance qui trouve ses racines dans une culture terrienne. Pascal n'est pas habitué à l'entendre. Vraiment l'entendre. Le plus souvent, c'est la maman de Benoît qui intervient. Il sait qu'il est apprécié chez eux par la mesure qu'il oppose à leur fils. Si vif, si brouillon, si attachant, mais qu'ils ont peine à gérer. Laurent dit souvent par boutade qu'il est plus facile de gérer une entreprise que Benoît. Laurent se lève de son fauteuil, celui qui accueille ses fatigues. Il va parler avec la force des gens qui généralement se taisent. Taiseux, dirait Brel. Il fixe Pascal et prend le temps d'une longue réflexion avant de se rasseoir. Mon petit Pascal, nous t'aimons beaucoup ici. Voilà, c'est comme ça. On est des travailleurs, mais pas des couillons. Et on sait bien pourquoi on t'aime. Tu es la mesure. Tu es ce que Benoît n'est pas. Et depuis qu'il te connaît, il est devenu presque un être raisonnable. Presque. Nous aimons beaucoup notre fils, mais nous avons été souvent désemparés par ses attitudes et ses comportements. Nous avons confiance en lui. Nous sentons bien qu'il va dépasser tout ça et faire autre chose. Devenir un bon gars. Il est déjà un bon gars. Mais souvent, il laisse l'impression qu'il ne le sait pas lui-même. T'es un bon gars, sûr. Je sais plus où j'en suis. Lucie, tu n'as pas l'habitude de prendre la parole. Et Laurent reprend. On était bien un peu inquiet pour lui ces derniers temps, tu sais. On est des parents, on ne sait pas tout, mais on voit des choses et on sentait bien que notre petit n'allait pas bien. Pas tout à fait bien, pas comme d'habitude en tout cas. Voilà. Alors je veux pas savoir, c'est sa vie. S'il veut causer, il sait qu'il peut le faire. Mais si c'est à quelqu'un d'autre qu'il veut causer, hein? Pourquoi pas? Si ça lui fait du bien, c'est tout ce qu'on veut. Hein, Lucie? Alors voilà, je voulais juste te dire qu'on est content que tu sois amie avec lui. C'est tout, voilà. C'est tout. Benoît a eu un mauvais passage, mais je crois que maintenant c'est derrière lui. On a beaucoup parlé. Il a vraiment envie de réussir sa vie et il commence à la prendre en main. Il a de la chance de t'avoir, précise Lucie. Vous savez, moi aussi j'ai de la chance de l'avoir. Je manque de fantaisie. Alors tous les deux on s'équilibre. Bien sûr, il y a eu l'épisode de la soucoupe volante, mais il faut bien que Jeannette se passe, non? Je vais vous laisser. Je dois rentrer maintenant.
Il s'est passé quelque temps avant que Benoît ne reprenne sa discussion avec Pascal. Manifestement, tout ce qu'il a déjà dit l'a soulagé. Il est beaucoup plus épanoui et commencerait même à avoir envie de faire quelques facéties. Il sait que raconter la suite de son histoire sera pénible, même si c'est à son ami. Alors, il diffère un peu. Il profite de son mieux-être actuel. Il sait que bientôt, une occasion se présentera et que tout sera facile. Ce dont il est persuadé est que le frère André a cessé de l'importuner depuis 2 mois, depuis l'entrevue du Bois du Roule. Pascal a été le plus souvent auprès de lui. Mais il pense aussi que son attitude personnelle a changé vis-à-vis de son prédateur. Une manière de dédain est apparue sur ses lèvres quand il le rencontre ou s'il est interrogé en classe. Peu à peu, l'attitude du frère André s'est modifiée. Une manière de repli. Il a pris de la distance. Il est redevenu simplement un professeur. Un bon professeur, qui plus est. À tel point que dans les matières qu'il enseigne, Benoît a de bien meilleurs résultats, sans qu'autre chose que son travail puisse être mis en cause. Les choses auraient pu rester en l'état. Pascal ne manifestait pas de curiosité particulière, estimant que son ami jugeait peut-être en avoir assez dit et que ce n'était pas à lui d'en parler. Un incident, toutefois, vint mettre fin à ce non-dit ou ce pas encore dit. Pascal était souvent dépositaire de petites histoires et de petits secrets. Son calme, son écoute, sa sérénité habituelle en faisaient un confident recherché. Les copains lui avaient déjà fait part de leur joie concernant l'évolution de Benoît. Ils essayaient même un peu d'en savoir davantage, estimant que lui devait posséder des infos particulières. Mais sans succès. Cette fois, c'est Adrien qui est venu. Il avait attendu que Pascal soit seul, car ce qu'il avait à lui dire ne regardait personne d'autre. Il l'avait déjà alerté au sujet de Benoît. Il avait là une nouvelle préoccupation. Adrien était un garçon très attentif, attentionné. Certains diraient curieux, mais le mot est trop fort, trop moralisateur. S'il s'occupait des affaires des autres, c'est surtout qu'il leur portait de l'intérêt. La frontière n'est pas facile à tracer entre curiosité, attention et prévenance. Les moraleux ont bien sûr fait en sorte d'occuper le terrain. Tu vois, on en a déjà discuté pour Benoît.
Mais aujourd'hui, Marc m'inquiète.
Je sais, je m'occupe un peu trop des autres, mais j'ai l'impression que la même chose se prépare pour lui, comme pour Benoît. On n'en a pas reparlé, mais je sais bien ce qui s'est passé des choses, et je crois bien savoir aussi que tu as agi pour que cela redevienne normal. Enfin, c'est pas facile à dire, mais c'est des histoires de pèlerins ce qu'il y a là. Ne dis rien. Beaucoup de bruit circule. Je me suis un peu renseigné. Il paraît que c'est courant que des profs et des élèves aient des relations sexuelles. C'est ça que tu veux dire?
Si je t'en parle, c'est pas pour essayer de savoir. C'est parce que je pense que Marc est peut-être en danger. Je voudrais ton avis. Je voudrais que tu y prêtes attention et qu'on voit ce qu'on peut faire. Voilà, c'est tout.
Après cette entrevue, Pascal fut très troublé. Lui aussi se contentait du statu quo. Il avait bien compris la nature perverse des rapports que le frère André avait provoqués et entretenus avec son ami. Mais il n'était pas vraiment tenté d'en savoir les détails. Il se disait que si Benoît avait besoin d'en parler un jour, même si c'était pénible, ils en parleraient. Il jugea quand même important d'en parler à Benoît. Lors d'une balade à vélo dans la campagne rouennaise, toute de verdure et de vallons, paisible, apaisante, pleine des souvenirs de Anquetil, Jourdain et des frères Lebaube, alors qu'elle soufflait, après quelques grimpettes et la déboulée de la côte de l'Inutile sur Saint-Aubin-Épinay, ils avaient posé leur bicyclette sur le bord d'un talus, sur la rive de l'Aubette. Il y a peu encore, elle promenait des truites. Elle véhicule aujourd'hui, avec un peu moins de poésie,
si des détergents. Pascal jugea le moment opportun pour lui parler de Marc.
Tu connais Marc ?
Oui, je n'en vois qu'un. Il est possible que frère André s'y intéresse. Je me doutais bien un petit peu de quelque chose. À vrai dire, au début, j'étais vraiment heureux d'être libéré et profiter pleinement de ce bonheur sans regarder autour de moi. Mais il a bien fallu que je redescende un peu après cette bouffée d'air et de voir l'attitude du frère André avec Marc a fini de me faire redescendre. Je retrouvais les attitudes qu'il avait eues vis-à-vis de moi, dans la manière qu'il avait d'être avec lui. Et tu vas trouver cela bizarre, un sentiment de jalousie est d'abord arrivé.
Oh !
Tu sais, on ne réfléchit pas, ça vient tout seul. Alors je me suis acharné à comprendre, car je n'aimais pas ce sentiment-là. Comme toi, j'ai commencé à lire pas mal, et j'ai trouvé des pistes. Il est possible qu'il y ait en moi une part de culpabilité dans la relation que j'ai eue. J'ai même l'impression qu'il a joué là-dessus pour pouvoir continuer nos rapports. Ou pas directement, mais assez insidieusement, par petites touches. Il a toujours fait en sorte de me faire comprendre que ce qui se passait nous impliquait tous les deux, que j'avais aussi ma part de responsabilité, qu'il avait trouvé des signes dans mes attitudes, qu'il ne voulait pas,
mais que inconsciemment, sans doute, je l'avais encouragé à venir vers moi.
Le salaud.
Pas si simple. Ce que j'ai retenu de cette affaire est que cet homme, qui paraît si fort et si sûr de lui, n'est qu'un faible, devant la nature qui est la sienne, qu'il ne sait pas comment la dominer, qu'il ne sait pas comment être en conformité avec ce qu'il prétend être. Il est mal à l'aise, mal dans sa peau. En fait, c'est un pauvre type. Je ne me rendais pas compte quand j'étais sous son emprise, car c'est bien ça, j'étais sous son emprise. Mais quand, avec ton aide, je m'en suis libéré, c'est devenu pour moi une évidence. Genre faible qui s'affirme sur plus faible que lui, tu vois. Je vois que tu as beaucoup gambergé, surtout. Il y a du bon en tout, et toutes ces saloperies m'ont permis de voir les choses autrement, de sortir d'un monde trop simple pour saisir ce qu'il est réellement. Oh, pas un monde pourri fait par des pourris pour d'autres pourris, non. Un monde complexe, où le bon et le mauvais se croisent dans les mêmes lieux et les mêmes personnes. On nous a raconté des conneries depuis le début.
Alors, ces saloperies, alors.
Après le chocolat et les photos des anciens, il est venu vers moi et m'a caressé les cheveux. Je m'étais arrêté là. Trop d'émotions, trop pénibles ces souvenirs. Rien que d'en parler, et j'étais épuisé. Et puis tu avais compris la suite. Le peu que je t'ai dit m'avait déjà soulagé. Je n'étais plus seul. J'ai dormi. J'ai vu. Je suis redescendu pour saluer tes parents. Ils avaient envie de savoir ce qui t'arrivait. Bien sûr, j'ai éludé. Mais ils ont bien réagi en me disant que tu te confiais à qui tu voulais et que l'important était que tu te sentes mieux. Il m'a caressé les cheveux et puis le cou. J'étais terrorisé. Il ne disait rien, mais avait un air que je ne lui connaissais pas. Un sourire pas naturel, forcé. Je sais pas. Et il avait le visage tout en sueur. J'entendais sa respiration accélérée. Il a fini par s'asseoir à côté de moi et a continué de me caresser en silence. Peu à peu, ses mains ont descendu, les épaules, les bras, les mains et puis mon ventre. Enfin, sa main a glissé dans l'ouverture de mon pyjama. Il a pris mon sexe dans sa main et l'a tripoté, voilà. Jusque-là, il n'avait pas réagi tant j'étais apeuré, mais là, il a commencé de se gonfler. Alors, il a posé ses lèvres sur ma bouche et doucement il m'a embrassé. J'étais fermé, mais il a insisté avec sa langue. Et j'ai fini par desserrer les dents. Alors il m'a vraiment embrassé, tout en continuant de branler mon sexe. Et avec tout cet assaut, j'ai fini par éjaculer dans sa main. J'ai fermé les yeux. J'étais effondré. Même si ces choses-là ne m'étaient pas inconnues, je tombais d'une falaise. Je ne comprenais pas. Je ne sais pas le temps qui s'est passé, mais à un moment, j'ai senti que la lumière avait baissé. Il avait juste laissé une petite veilleuse allumée, et quand je l'ai regardée, il avait ouvert sa soutane et était nu dessous. Il a pris ma main doucement et l'a posée sur son sexe, déjà en pleine érection. Il m'a fait comprendre que je devais le branler à mon tour. Je n'avais plus aucune volonté, aucune résistance. Alors je l'ai fait. Ça n'a pas duré très longtemps, car ce qui avait précédé l'avait bien préparé. Et à son tour, il a éjaculé. Ma main était gluante, collante un peu. Une petite odeur acide s'était installée. Lui était essoufflé, et ce que je pouvais percevoir de son visage était presque effrayant. Il était rouge, tout en nage, sa respiration s'était affolée. Mais par-dessus tout, il avait une expression à la fois de relâchement et de panique, comme s'il venait de réaliser, comme s'il avait assisté à la scène, mais ne l'avait pas vécue. Je me suis levé. C'est idiot, mais la seule chose à laquelle je pensais était de me laver les mains et le sexe, d'enlever la tache de mon pyjama. Je me suis dirigé vers l'évier, j'ai fait couler de l'eau et je me suis purifié. C'est le mot qui trottait dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Purifié. J'étais sidéré, comme si j'étais sur une autre planète. Lui ne valait pas mieux. Il avait les bras ballants, semblait vouloir dire quelque chose, mais il ne pouvait pas. Il ouvrait la bouche, semblait vouloir articuler quelque chose, agitait ses bras le long de son corps, essayait d'articuler de nouveau. Je me suis éloigné et ai franchi la porte de la cuisine. À ce moment-là, j'ai entendu « Ce n'est rien, ce n'est rien !» Je suis retourné vers le dortoir. Heureusement, tout le monde dormait. Je me suis allongé, mais j'ai eu peine à trouver le sommeil. Toute la scène tournait dans ma tête. J'avais envie de pleurer, d'hurler, mais rien ne venait. Ma préoccupation était que mon pyjama sèche. Il ne fallait pas que mes copains s'aperçoivent de quelque chose. J'ai fini par m'endormir, mais le lendemain, il a fallu qu'il me secoue. Vivement. J'avais enfin trouvé mon sommeil sur le petit matin, et mon pyjama était sec. Je comprends que tu aies du mal à en parler, même si moi aussi j'ai entendu parler un peu d'histoire comme ça. De l'entendre par toi, savoir que tu l'as vécu. Ce qui est drôle est que je me sentais coupable. J'avais éjaculé. J'avais donc pris du plaisir. Donc j'étais coupable. Je sais pas, j'aurais dû me défendre, le mort, fuir, ne pas jouir. Le lendemain, toute la scène trottait dans ma tête. et les copains rouspétaient parce que je les faisais perdre au foot ou aux autres jeux. Finalement, je suis allé dans un coin et j'ai dormi.
Tu as dormi ?
Il y a eu d'autres fois cette colo-là. Il y a eu les mêmes choses et d'autres encore. Il y a eu la sodomie, des étreintes, des fellations. Et plus cela avançait, plus il parlait. Moi, je ne disais rien. Il avait besoin de se raconter, d'expliquer et sur le fond de se justifier. Moi, je ne disais rien. Je subissais. Je ne faisais que subir. Plus je subissais, plus je ressentais sa frustration, plus il parlait. Heureusement, la colonie a pris fin. Je croyais que c'était ma libération, car je n'avais jamais trouvé la force de refuser. Je pensais que de retour à la maison, au pays, à l'école, cela allait cesser. C'était une évidence. Mais il a provoqué d'autres occasions. À l'école. Il devait aussi aimer le risque. J'ignorais que c'était à moi de provoquer ma libération, mais je ne savais comment. On ne m'a jamais appris ça à l'école. Ils rirent tous les deux. Je suis passé par beaucoup d'états, j'ai même pensé à me suicider. C'est resté au stade d'idées, mais j'étais vraiment perdu. Je n'osais plus aller vers qui que ce soit. Même moi, peut-être surtout toi, et mes parents, car je te le répète, je me sentais coupable aussi, coupable du plaisir, même s'il était subi, coupable de ne pas réagir. J'avais l'impression de vous trahir tous, et c'est bien moi qui étais le responsable. Aujourd'hui, je comprends mieux. Je comprends qu'il m'avait enfermé dans cet état-là, qu'il avait tissé autour de moi comme une cage qui m'enfermait et qui le protégeait. Je n'ai pas saisi tout de suite, car dans ma naïveté, je m'étais dit que je devais être le premier, qu'il avait failli avec moi et que les circonstances l'avaient piégé, qu'ensuite, lui comme moi, étions prisonniers et nous ne pouvions trouver refuge que dans ce que nous vivions. Mais peu à peu, à de petits indices, j'ai commencé à me dire que je n'étais pas le premier, qu'il y en avait eu d'autres, et que toute l'approche qu'il avait faite vers moi était en fait bien réfléchie, et n'avait pour but que me faire fléchir. Ce n'est sûrement pas tout à fait aussi simple, mais je pense aujourd'hui qu'il y avait une grande part de calcul dans son approche. Un mélange de manipulation et d'attente. Et pour Marc, je dois le prévenir. Je suis le mieux placé pour le faire. Si j'avais été prévenu, préparé, je pense que tout cela se serait passé autrement. J'ai l'impression que le frère André recule facilement, qu'il craint que les choses se sachent. Il vit sur deux registres. Et il ne faut surtout pas qu'il puisse se rejoindre. Peut-être même tire-t-il du plaisir de cette situation. L'adrénaline avant le hold-up. Allez, rentrons avant de prendre une averse. Dès le lendemain, Benoît rejoignit la cour supérieure de l'établissement. Elle accueillait les quatrièmes et les troisièmes. La cour inférieure étant réservée aux primaires. Cinquième et sixième. Marc était près d'un poteau en bois qui supportait le coin du préau sous lequel les élèves jouaient au ping-pong durant les récrés. La cour goudronnée était emplie du vacarme de turbulents condisciples. Une imposante horloge encastrée dans le mur des classes orchestrait les rythmes scolaires. Benoît, du temps de sa splendeur, l'avait gratifié d'un superbe jet de fromage à tartiner. Et cette précieuse décoration était restée fichée sur le cadran durant une longue période. Au départ, de couleur crème, elle passa par toutes les nuances du jaune, avant de virer au brun, proposant par ses mutations une autre échelle du temps. Il s'approcha de Marc. Ils se connaissaient de vue, et pour avoir joué au ping-pong collectif ensemble. Benoît s'en trouvait un peu gêné pour aborder le sujet. « Ça va ?»«
Oui, ça va. »«
Tu joues pas avec les autres ?»« Non, je révise un peu dans ma tête, j'ai une interro d'anglais tout de suite. »«
Ah bon, ben je te laisse. »«
Non, non, ça me fait du bien, ça me ferait une détente. »«
Ah, ok. »«
Voilà, j'ai appris que tu allais partir faire le pèlerinage à la Salette. »«
Oui, j'ai eu de bons résultats et il restait une place, alors ils me l'ont proposé, car mes parents n'auraient pas pu me payer ce voyage. »«
Super !»«
Oui, enfin, c'est un bon voyage. Mais c'est aussi un pèlerinage. Il va falloir encore se taper des messes et tous les blabla. »«
Mais c'est vrai, c'est un beau voyage. »
Qui te l'a proposé?
C'est le Dirlo, le frère Barthélémy. Mais il m'a dit que c'était une proposition du frère André, parce que j'avais bien bossé en maths.
C'est bien ce que j'avais entendu dire. Tout se sait ici, hein?
Mais justement, c'est un peu pour ça que je suis venu te voir.
Ce n'est pas par hasard?
Non. Je dois te mettre en garde. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mais le frère André a des pratiques bizarres.
Tu en as entendu parler?
Je ne suis arrivé que l'année dernière, mais j'ai déjà entendu son surnom, Dédé la pédale. J'ai sûrement pas tout compris, mais quand même un peu.
Il faut se méfier de lui?
Oui. Et j'en sais quelque chose. Il m'a fait des... Enfin, c'est pas facile à raconter. Mais il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Des choses, enfin, tu vois.
Oui, oui.
Sûrement aurait-il voulu en savoir plus, mais il ne voulait pas paraître ignoré. J'ai réussi à m'en défaire, mais fais attention à toi. Surtout pendant le pèlerinage. Il faut que tu sois vigilant et que tu saches lui refuser des propositions bizarres. Il te faut éviter d'être seul avec lui. Reste avec les copains et profites-en. Bon voyage, et à bientôt, je viendrai te voir après ton retour.
Peut-être aurait-il dû lui en dire davantage. Il regrettait de n'avoir pas été plus précis.
Mais Pascal le rassura, lui disant « Si quelqu'un t'avait seulement mis en garde comme ça, sûrement il ne te serait rien arrivé. »
Comme convenu, Benoît rencontra Marc après son retour.
Il commença par le remercier pour sa mise en garde et lui fit part d'un épisode qui l'avait mis en alerte.
Nous sommes partis en train et le voyage se terminait de nuit. Après ce que tu m'avais dit, j'étais sur mes gardes. Le compartiment, baigné de la faible lumière jaunâtre, ronronnait doucement. Le cliquetis des rails entretenait le sommeil de mes compagnons et m'inviter à les rejoindre. Moi, je ne voulais pas. J'avais prié les aiguillages, les tunnels et les traversées de gare de venir à mon secours et de me tirer de la dolence. Ils avaient bien saisi, et les changements de rythme et d'ambiance me permirent de rester suffisamment éveillé. Lorsque le frère André est venu, je l'étais tout à fait. Il avait fait quelques passages pour s'enquérir de nous. Il était responsable de ce petit troupeau et quelques moniteurs l'aidaient en cette tâche.
« Tu ne dors pas ?»«
Non. » Il était reparti, me glissant un sourire. Peu de temps après, il était revenu et s'était assis auprès de moi. Il m'avait posé quelques questions banales. S'était intéressé à moi, avait raconté quelques histoires dont je ne me souviens pas. Ma vigilance monopolisait toutes mes facultés. Il a dû sentir que je commençais à m'assoupir et gentiment m'a proposé de poser ma tête sur ses jambes en matière d'oreiller. Je n'ai pas refusé. Ce que j'ai refusé, c'est de dormir. J'en remercie encore aiguillage, tunnel
et de traverser de gare. Si je ne dormais pas, je lui en laissais toutefois l'impression. Je ne sais pas le temps qui s'est passé. Je pense qu'il a été assez long, et j'ai senti que sa main droite cherchait à se glisser dans la poche de mon short. Doucement, insidieusement. Avait-il froid aux mains? S'endormait-il à son tour? Faisait-il ce geste inconsciemment? Je n'avais pas peur. Je n'aime pas avoir peur. J'ai souvent su y échapper. Si la peur nous prévient, elle a une fâcheuse tendance à nous faire perdre nos moyens. J'essaye d'analyser les situations pour mieux répondre au danger, s'il doit y en avoir un. Souvent, la peur vient de notre seule perception et d'une analyse corrompue. Étais-je en danger? Mes parents, mes professeurs, tout mon environnement ont fait en sorte que je ne sache pas que ce genre de danger existait. Et je n'avais pas vraiment de moyen de comprendre ce qui pouvait arriver. Dans le peu que tu m'as dit, j'ai gardé le sentiment que ce n'était pas des choses normales, et que surtout tu en souffrais. J'ai saisi ta sincérité et ta souffrance. Alors cette nuit-là, j'étais en mode défiance. Ce n'était plus une impression, la main continuait de progresser dans ma poche. Lentement, imperceptiblement pour le dormeur que j'étais censé être. Je n'avais plus besoin des aiguillages. J'étais en plein éveil, les yeux fermés, mais tout à fait conscient. Malgré le manque d'informations et parce que je ne suis pas tout à fait idiot, j'estimais bien que c'était mon sexe que la main cherchait à approcher. Je ne comprenais pas tout à fait quelle en était la raison, mais j'imaginais assez bien que cela était en rapport, pardon, de même essence que ce que tu m'avais raconté. Et je n'avais aucune envie d'en savoir davantage. J'allais vers la Vierge de la Salette. Mes camarades étaient toujours en sommeil. Même si je n'avais pas peur, il fallait que je fasse quelque chose, que je me défende. Ma défense a été simple, évidente, limpide et suffisante. Suffisante surtout. J'ai posé ma main droite, toujours dans mon supposé sommeil, sur mon short, au-dessus de la poche, de manière à ce qu'elle empêche la progression de la main exploratrice. Et la progression s'est arrêtée, définitivement arrêtée. Qu'a-t-il compris? A-t-il pensé que je ne dormais pas? A-t-il senti que je résistais? Attendait-il une résistance pour retenir ses pulsions? Avait-il seulement froid aux mains? Tout ce que j'en sais, qu'après un moment d'immobilité, j'ai fait semblant de m'éveiller et me suis lentement retourné vers lui. Il dormait. Précautionneusement, je me suis détaché, suis allé faire un tour dans le couloir. Deux fumeurs devisaient calmement auprès d'une fenêtre qu'ils avaient légèrement ouverte. Je suis resté un petit moment près d'eux pour prendre la fraîcheur de la nuit et peut-être aussi l'odeur du tabac. De légers sourires de leur part m'indiquaient qu'ils acceptaient ma présence. Pour autant, ils ne m'adressèrent pas la parole et continuèrent leur conversation. Une demi-heure plus tard, peut-être, après les avoir salués, j'ai rejoint mon compartiment. Le frère André dormait toujours. Je me suis assis sur la banquette d'en face et repris mon semblant de sommeil. Mais je ne me suis endormi qu'avec le lever du jour. Ma première nuit blanche. Le séjour s'est bien passé. Mes camarades et moi-même découvrions les Alpes pour la plupart. Nous étions dans des chambres de quatre. Et frère André passait le soir pour nous souhaiter bonne nuit. Voilà, c'est tout. J'ai ramené des souvenirs de neige, de grandes balades et de stations-service qui ne portaient même pas le même nom que chez nous. la mûre, et j'en ai été très surpris. Je n'ai pas ramené de souvenirs de messe, prière et retraite. Je suis heureux, c'est bien, je pense que maintenant tu es tranquille. Si tu as besoin, fais-moi signe. Benoît l'a quelquefois croisé avant la fin de l'année scolaire. Il devait changer d'établissement à la rentrée pour rejoindre un lycée. Peut-être ne se reverrait-il pas ? Ils ne se revirent pas, et chacun son chemin. Ces épisodes, bien sûr, ont rapproché Benoît et Pascal. Il leur apparaissait évident qu'ils étaient complémentaires et que leurs différences mélangées leur offraient un meilleur équilibre. Quant à leur tour, ils quittèrent le collège l'année suivante. La vie allait s'emparer d'eux à vive allure. Et tout cela serait rangé dans le carton des souvenirs. Mais ce carton était-il si bien fermé que ça, Benoît ? Pascal tourne tous ces événements dans sa tête depuis pas mal d'années. Ils sont pénibles, dramatiques, mais il y retrouve de purs instants de bonheur. Ce temps où ils étaient amis, comme les doigts de la main, disait-on. Ce temps si loin, ce temps qui a filé comme tout a filé, tout ce qu'il a perdu. Lui qui avait la confiance de tous et qui ne croit même plus en lui-même. Il faut qu'il y retourne. Il faut qu'il revoie. Qu'il se revoie, qu'il comprenne. Mais pourrait-il comprendre alors que depuis 25 années, Benoît, il essaye.